Donc, au nom de l'équipe de recherche donc dite du PLU patrimonial, je suis ravi de vous accueillir dans ce magnifique monument, les Greniers Saint-Jean, que vous aurez tout le plaisir d'admirer pendant cette journée et demie de colloque, tout comme vous aurez la possibilité de découvrir un autre monument historique de la ville d'Angers pour le cocktail de fin de journée dont je vous reparlerai. Voilà, donc je suis vraiment enchanté de vous accueillir. Voilà, merci. Oui, et puis du coup, tu dois avoir les autres diapos. Donc, ravi de vous accueillir pour ce colloque de clôture du programme de recherche de l'ANR, donc de l'Agence Nationale de la Recherche, donc programme consacré au plan local d'urbanisme, je le dis une fois, mais je pense qu'il n'y a pas de souci sur les sigles avec vous, plan local d'urbanisme patrimonial. Donc, c'est à la fois le programme, la clôture du programme de recherche. Je regarde mon collègue Thomas, parce que du coup, il y a d'autres diapos à mettre. Tu sais, celle que je t'ai passée. C'est pas celle-ci, je pense. Voilà. Bon, c'est quelques visuels, hein. Il n'y a rien de très intéressant dans ces visuels. C'était juste pour rappeler que ce colloque de clôture est en même temps la 5e édition des journées d'études que nous avons initié en 2011. Je pense entre autres à mon collègue Paul Ionia qui est ici présent. Nous avions démarré en 2011 une forme de colloque dédié au droit et à la gouvernance du patrimoine architectural et urbain. C'est aussi la 5e édition de ces journées d'études. J'ai la zapette. Là. Donc voilà, je ne vais pas insister sur les thématiques des éditions précédentes. En même temps, vous allez bien sûr découvrir, et je pense que vous le savez déjà, notre sujet entre en résonance avec les sujets précédents. Hein, bien sûr, je pense à la transformation des ZPP en AVAP, puis en sites patrimoniaux remarquables, comme sujet qui est directement en lien avec notre thématique du jour. Donc voilà, 5e édition de ces journées, mais avant tout le colloque de clôture de ce programme de recherche. Alors ce programme de recherche, je vous ai mis une diapo qui est celle de l'ANR, celle qu'on a présentée devant l'Agence nationale de la recherche. Donc vous avez là le titre exact du programme de recherche, donc en abrégé PLU patrimonial, mais vous voyez que donc il y avait un peu plus d'éléments dans le titre déposé en 2015, il s'agissait vraiment d'aborder la question sous l'angle de la protection du patrimoine, mais aussi du projet urbain, puisque on a été retenu dans le cadre d'un défi de l'ANR qui s'appelle système urbain durable et mobilité. Donc la question des mobilités nous concernait un peu moins, mais c'est pour montrer qu'on était dans un champ thématique qui était beaucoup plus large que la stricte protection du patrimoine. Alors ce programme a démarré en 2015, il doit être clos pour le 30 septembre de cette année. Il a rassemblé 4 partenaires scientifiques, je parlerai un petit peu plus tard des partenaires professionnels, mais nous avons travaillé sur 4 établissements, elles sont affichées derrière moi, l'Université de Lyon 2, l'École d'architecture de Lyon, l'Université de Tours, je mentionne pas les laboratoires qui sont derrière, ils s'affichent, et puis l'Université d'Angers, je le précise quand même, le Centre Jean Bodin, parce que le directeur du Centre Jean Bodin est présent dans la salle, je me permets de le saluer. Voilà, depuis plus de 3 ans, nous sommes partis à la recherche de cet objet qu'on a récemment appelé un OGNI, un objet juridique non identifié, le PLU patrimonial, en rassemblant les forces de juristes, mais aussi de géographes, d'architectes et de sociologues. Donc c'est une recherche pluridisciplinaire, avec bien sûr une couleur juridique importante, mais aussi une approche, par exemple, géographique tout aussi importante. Donc nous sommes partis à la recherche de cet objet. Il nous a fallu pénétrer, explorer, mesurer cet objet. Alors cet objet, c'était une friche, un désert, une forêt. On ne savait pas trop ce qu'on allait rencontrer. En tout cas, on est parti un peu comme les aventuriers de l'Arche perdue, à la recherche de cet objet. Et j'espère que, à la fin de ce colloque, vous ne nous direz pas qu'on est parti à la recherche du temps perdu. Mais ça, ce sera à vous de l'évaluer. Alors, je me permets simplement, puisqu'on parle de temps, de remonter un tout petit peu l'histoire de ce programme de recherche, qui a démarré il y a 6 ans, lors d'un colloque organisé à l'École du paysage à Blois, colloque auquel était convié Vincent Véchambre, professeur Alors, on ne dit pas de géographie, je ne sais plus comment tu dis, c'est pas tout à fait comme ça que tu te nommes, mais il y en a qui le connaissent déjà, donc qui fut d'ailleurs maître de conférence en géographie à Angers. Et donc, on s'est retrouvé avec Vincent Véchambre dans ce colloque, et en 2013, c'était la période pendant laquelle le ministère de la Culture avait à peu près sorti la première version du projet de loi qui allait devenir la loi LCAP du 7 juillet 2016. Et donc, je pense que vous vous en souvenez, dans cette première version du projet de loi, il y avait donc bien sûr des expressions qui ont disparu, puisque au tout départ, il y a eu l'expression de paysage culturel, puis c'est devenu cité historique, et pour devenir finalement, vous le savez, site patrimonieux remarquable. Mais il y avait aussi une expression donc inscrite dans la loi en tant qu'outil de gestion donc des cités historiques ou aujourd'hui des sites patrimoniaux remarquables. Il y avait donc possibilité, selon le ministère à l'époque, de faire gérer ces espaces protégés soit par des plans de sauvegarde et de mise en valeur, soit par des PLU patrimoniaux. Et c'est cette mention dans la première version du projet de loi de PLU patrimonial voilà, qui m'a incité à entraîner Vincent dans une coécriture d'un programme de recherche. Donc Vincent Véchambre et moi-même avons été les premiers rédacteurs de ce programme de recherche. D'autres collègues y ont bien sûr ajouté leurs pattes au fil de la rédaction. Et puis donc c'est en surfant quelque part sur cette vague du projet de loi LCAP probablement que on a en partie convaincu l'ANR de nous financer sur cette OGNI. Alors Vincent Véchambre d'ailleurs je le salue puisque à la base c'était lui le coordinateur du programme de recherche et puis en 2015 il aurait dû jouer au loto puisque on a décroché l'ANR mais il a aussi obtenu un poste de gestionnaire d'un équipement dont il pourra vous parler si vous voulez au pause café. Donc voilà, je me suis retrouvé en tant que binôme sur l'écriture de ce programme de recherche. Je me suis retrouvé à reprendre les rênes et donc c'est avec plaisir que j'ai pu continuer à travailler avec cette équipe. Alors, bien sûr, vous le savez aussi, la version finale de la loi LCAP a supprimé la mention du PLU patrimonial dans le texte adopté au Parlement, hein, entre autres, bien sûr, dans le cadre d'une intervention au Sénat, et entre autres des associations, dont plusieurs sont présentes ici, qui contestaient le fait qu'on puisse confier la protection d'espaces très patrimoniaux à un simple plan local d'urbanisme, même dit patrimonial. Donc vous le savez, finalement, le ministère de la Culture a renoncé à maintenir cette mention de PLU patrimonial dans le texte pour finalement, après tant d'années de débat, revenir à un système qui pourrait paraître équivalent à celui qu'on a connu pendant tant d'années, qui était finalement celui qui reposait sur la distinction entre secteur sauvegardé PSMV et ZPPAUP AVAP, et donc aujourd'hui on dirait règlement d'AVAP ou PVAP. Bon voilà, donc finalement, dans le texte, on est revenu à ça et le PLU patrimonial a été supprimé de la loi. Donc plusieurs acteurs que nous avons rencontrés nous ont dit à ce moment-là, finalement votre programme de recherche ne sert plus à rien puisque le PLU patrimonial n'a plus d'existence législative, il n'est plus inscrit dans le texte. Pas du tout. Je pense que vous le mesurez vous-même sur le terrain. Pas du tout. Alors, je peux pas dire autrement parce qu'on a quand même dépensé un peu d'argent public pendant ces 3 années et demie. Donc, ce serait un peu indécent de considérer que nous n'avions plus d'objet scientifique. Et bien sûr, sur un plan pratique, on peut même considérer, peut-être que vous me contredirez, mais on peut même considérer que le PLU patrimonial ne s'est jamais aussi bien porté. C'est un outil qui est en pleine évolution, est plutôt marqué par une dynamique, une progression importante. Il ne s'est jamais aussi bien porté pour autant qu'il existe. Parce que, bien sûr, tout dépend de ce qu'on met sous cette expression de PLU patrimonial. Elle est, bien sûr, toujours absente de tous les codes. Elle ne figure ni dans le code de l'urbanisme, ni dans le code du patrimoine, ni dans le code de l'environnement. Donc, le PLU patrimonial est à la fois un outil en pleine expansion, mais un outil toujours absent du point de vue de la législation. Donc, notre recherche a bien sûr consisté à explorer cette notion et à tenter d'en définir le contenu, les intérêts, les limites, les dangers. Parce que, effectivement, certains PLU sont patrimoniaux sans le dire, et certains PLU dits patrimoniaux ne font peut-être pas forcément grand-chose en faveur du patrimoine d'un point de vue juridique. Alors, pour pouvoir mener cette recherche, nous avons respecté, d'abord, et c'est logique, je ne sais plus où j'en suis dans mes diapos, voilà, nous avons respecté un calendrier de travail. Alors, bien sûr, ce visuel n'est pas fait pour être lu, c'est juste pour vous montrer qu'on a bien travaillé, qu'on a accompli toutes nos tâches et nos sous-tâches, et peut-être même un peu plus, d'ailleurs, que ce qui était prévu au départ. On vous en parlera très rapidement. Voilà, donc, on a respecté notre calendrier de travail, bien sûr, et puis... Hop, je ne vais peut-être pas m'attarder là-dessus, je reviens là. On a aussi respecté l'échantillonnage qu'on avait inscrit dans le programme de recherche au départ. Donc je vous rappelle, on a déposé notre programme de recherche en 2015, ça veut dire qu'on l'a écrit en 2014, et je ne l'ai pas dit, mais en fait on a obtenu ce programme à la deuxième tentative. Donc dans une première version de notre programme de recherche, l'écriture datait même de 2013. Donc on était à l'époque sur un échantillonnage de villes, de communes. Entre autres, dans le cadre de cet échantillonnage, on était sur un échantillonnage qui permettait d'avoir une forme d'objectivité statistique, qui était celui des 20 plus grandes villes de France. Donc, une partie de notre travail a consisté à analyser les PLU patrimoniaux, mais aussi, plus globalement, l'action patrimoniale et la stratégie patrimoniale d'une bonne partie des 20 plus grandes villes de France. Alors, bien sûr, il y en a quelques-unes qui sont quand même passées à travers les mailles du filet, pour des raisons tout simplement aussi de temps, voilà, de présence de chercheurs sur certains terrains plutôt que sur d'autres. Donc on a travaillé sur ces quand même 20 plus grandes villes de France, mais on a aussi élargi notre spectre de recherche en pouvant travailler sur des communes beaucoup plus petites au gré d'un certain nombre d'opportunités et entre autres aussi au travers de partenariats avec des masters donc basés je cherche Sébastien mais il est tout au bout je crois, voilà, je vous présenterai très très vite les membres de l'équipe tout à l'heure, basés à Paris pour l'un d'entre eux et basés à Tours pour le deuxième. Donc on a eu la chance de pouvoir travailler avec des étudiants qui nous ont permis d'élargir un petit peu cet échantillon très urbain évidemment, pour aller vers des communes rurales ou périurbaines. Alors, je rappelle ça parce que c'est important dans les résultats qu'on vous livre pendant cette journée et demie en matière de PLU patrimoniaux. Voilà, nous avions cet échantillon de base, on l'a élargi, mais bien sûr, il est resté tout un tas d'angles morts dans notre programme de recherche. En aucun cas, ce qu'on va vous présenter modestement aujourd'hui et demain n'a vocation à s'appliquer sur la diversité infinie des situations territoriales que vous pouvez vivre dans les territoires, des métropoles jusqu'aux territoires ultra-ruraux, pour les appeler brièvement comme ça. Alors, notre réflexion ne s'est pas alimentée que de l'analyse des PLU. Sur un certain nombre de villes, de territoires, on a aussi fait des entretiens qualitatifs avec les acteurs. Alors voilà, parfois avec 2-3 acteurs, parfois 5-6 acteurs. Voilà, donc ce sont bien sûr aussi cette matière qui a alimenté notre programme de recherche. On a aussi participé, les uns ou les autres, selon les opportunités, on a aussi participé donc à un certain nombre de rencontres professionnelles, de colloques, de clubs PLUI auxquels vous avez peut-être vous aussi participé. Hein, le club PLUI, bien sûr, à l'Arche de la Défense, mais aussi en région, puisque les services de l'État ont animé plusieurs fois des clubs PLUI dans les régions. Donc avec cette matière, nous avions... l'idée originale de dresser le portrait robot du PLU patrimonial. C'était une formule dans le programme de recherche, établir le portrait robot de ce qu'est un PLU patrimonial. Et en fait, très vite, on s'est rendu compte qu'on ne se posait pas la bonne question, parce qu'on s'est rendu compte que la diversité des situations qu'on a pu observer et rendait compliqué l'établissement d'un portrait robot et quelque part l'établissement, par exemple, d'un guide méthodologique pour faire un PLU patrimonial. Donc, je ne pense pas que vous soyez là en vous disant « je vais repartir avec, dans ma sacoche, un guide méthodo pour faire un PLU patrimonial ». J'espère que non, parce que donc c'est pas ce qu'on va vous fournir, mais plutôt un certain nombre de réflexions et de repères par rapport à l'analyse qu'on a pu mener sur ces PLU. Donc on n'est pas, ce qu'on a vu bien sûr, c'est qu'on n'était pas dans un constat binaire avec présence de l'outil ou absence de l'outil. C'est ce qu'on a avec, par exemple, les périmètres d'abord autour des monuments historiques. À partir du moment où un monument historique génère un périmètre, bon, voilà, il y a, c'est quelque part, c'est on-off. C'est bien sûr le cas aussi à partir d'un site patrimonial remarquable. Quand on rentre dans la logique des PLU, on est sur des gradients de patrimonialité qui sont spécifiques à chaque territoire et à un temps donné sur ces territoires. Donc on s'est retrouvé face à non pas 50 nuances de grès, mais 50 nuances de patrimonialité qui nous ont conduit à revoir notre feuille de route. Et comme on va le dire dans le film qu'on va vous présenter tout à l'heure, finalement du portrait robot, on en est arrivé plutôt à une photo de classe. Donc ce que vous allez avoir pendant cette journée et demie, c'est plutôt une photo de classe des PLU patrimoniaux qu'on a rencontrés. Et peut-être que vous allez reconnaître les vôtres dans cette photo de classe. Peut-être qu'il y a quelques PLU qu'on n'a pas encore intégrés dans la photo de classe. Cette photo de classe, comme toute photo, elle sera amenée à évaluer. Donc notre étude, notre programme de recherche, il est d'ailleurs à ce titre daté, 2015-2019. Et avec... une analyse des matériaux qui a bien sûr été plutôt faite au début du programme de recherche, c'est-à-dire en 2015, 2016, début 2017. Donc, évidemment, notre échantillonnage et les terrains qu'on avait choisis ont été rattrapés par l'histoire juridique d'une part, donc le vote de la loi LCAP en juillet 2016, et bien sûr aussi l'histoire de la recomposition territoriale. Vous le savez aussi très bien, depuis la loi Allure et la loi NOTRe, les territoires sont en profonde mutation. À titre d'exemple, le Maine-et-Loire, par exemple, a vu le nombre de communes diminuer par deux en l'espace de quelques années. C'est, le département record en termes de fusion de communes, de communes nouvelles. Donc ça donne une idée de l'ampleur des transformations, mais sans aller jusqu'à une transformation de ce type. Alors on a un invité surprise, vous l'avez vu, malheureusement, un oiseau, un martinet, qui est rentré dans les greniers Saint-Jean, on ne sait quand, et voilà, qui plane au-dessus de vous. Voilà, donc notre programme de recherche, bien sûr, a été rattrapé par cette histoire et entre autres par le renforcement de l'intercommunalité. Et on a respecté ce qui était notre cahier des charges de départ, un échantillon communal en matière de PLU patrimoniaux. Donc soit c'était des PLU communaux, soit nous avons étudié pour respecter cette logique la partie communale d'une ville au sein parfois déjà d'un PLU intercommunal. Alors, ça ne veut pas dire que, bien sûr, on a fait abstraction de cette dynamique. Ça ne veut pas dire qu'on n'a pas échangé sur l'impact de l'intercommunalité et sur du passage au PLUI sur notre objet de recherche. Mais on est quand même resté un petit peu coincé par cet échantillonnage communal. C'est un sujet dont on va débattre, malgré tout, pendant une journée et demie, et puis qui sera, bien sûr, au cœur de la table ronde de demain après-midi. Donc voilà, donc on a été rattrapé par cette histoire-là, et puis effectivement on a été aussi un petit peu rattrapé, ça c'est plus récent, par les effets de la loi LCAP en matière de sites patrimoniaux remarquables. Ce sera aussi un sujet dont on reparlera, et entre autres pendant la table ronde, puisque de toute évidence, le ministère de la Culture, de par le dispositif mis en place depuis 2016 en matière de nouveaux sites patrimoniaux remarquables ou d'extension d'anciennes AVAP dans le cadre du nouveau dispositif, le ministère de la Culture semble avoir une vision très élitiste des sites patrimoniaux remarquables, avec un discours porté en contrepoint en faveur du PLU, pour le dire franchement, et on en reparlera. Si vous n'avez plus le droit de faire un site patrimonial remarquable ou une extension de site patrimonial remarquable parce que votre patrimoine n'est pas digne de passer en CNPA, pour le dire aussi un peu brutalement, le ministère incite à mettre tout le patrimoine non concerné par par les sites patrimoniaux dans le PLU. Donc c'est aussi un effet de l'histoire qui nous rattrape et qui renforce l'intérêt de se pencher sur cet outil. Voilà, donc je voulais recontextualiser un petit peu ce programme de recherche sans vous dire pour le moment sur quoi on allait ensuite intervenir. Vous avez déjà dans vos brochures un certain nombre d'éléments. Alors justement, à propos de ces éléments, d'abord Je voudrais tout simplement remercier, je n'ai été que l'animateur des réunions de travail qu'on a eues, mais donc je voudrais moi personnellement remercier tous les collègues avec lesquels j'ai eu la chance de travailler, et enfin voilà, avec lesquels on a formé une équipe efficace. Ça va être très rapide, mais je vais, en essayant de n'en oublier aucun, rapidement vous les présenter. Je commence tout de suite par Julie Marchand, et je vous demande de vous lever à chaque fois pour que les gens vous voient. Voilà, Julie Marchand. Oh bah. Vincent Véchambre, voilà, il est voilà. Mathieu Gigot, voilà. Au début je les vois, mais après je les vois plus parce que j'ai pas mes lunettes. Roméo Carabelli derrière, voilà. Alors après je ne sais plus où vous êtes, mais je vais vous citer. Cécile Regnault, voilà, derrière aussi. J'ai cité tout à l'heure Sébastien Jacquot, qui est tout au fond, bien sûr. Je lui ai dit, tu vas pas te mettre tout au fond. Fabrice Thuriot est encore plus loin. Bravo Fabrice, voilà. Pascal Planchet, on revient vers l'avant. Voilà. Et hormis moi-même, bien sûr, que j'ai pas besoin de présenter, et Isa, voilà, je l'avais pas vue, elle était tout. Isa Carré, pardon, je cherchais. Voilà. Et Bastien Couturier, que je voulais excuser. Et ben, voilà. Bon voilà, ça c'est, de toute façon quand on part dans une liste, voilà, Isa Carré et Patrice Meulet parce qu'il était dans mon dos, voilà, tu te lèves pas, t'as pas besoin, voilà. Alors, bon, maintenant que j'ai rougi en ayant oublié bien sûr deux collègues, je reprends le fil de... Donc un petit mot de remerciement tout particulier pour Mathieu Gigot, qui s'est déjà levé tout à l'heure, qui a été l'ingénieur de recherche, donc pendant 3 ans, tu peux te relever si tu veux bien sûr, mais voilà, Mathieu Gigot a été notre ingénieur de recherche pendant 3 ans sur ce programme de recherche, donc je peux pas développer plus que ça, tout le plaisir que j'ai eu à travailler avec lui, mais il est d'une efficacité redoutable, à la fois en termes d'intendance, de logistique, mais bien sûr aussi en termes de recherche scientifique. Il a été, il va vous le montrer tout à l'heure, donc entre autres artisan avec quelqu'un que je saluerai tout à l'heure, mais de notre chaîne vidéo. Voilà, puis je voudrais juste dire un petit mot aussi au profit de Julie Marchand, voilà, qui tout en terminant sa thèse, donc j'espère que les autres collègues ne m'en voudront pas de simplement pointer Mathieu et Julie, mais Julie, tout en terminant sa thèse, en développant son entreprise, une entreprise qui s'appelle Connexence. Donc si vous ne connaissez pas encore Connexence, n'hésitez pas à lui en parler à la pause. Donc voilà, elle a réussi à garder une implication permanente dans le programme de recherche. Et puis d'ailleurs, à cette occasion, elle m'a dit, quand tu seras à la tribune, n'oublie pas de glisser quelques mots, hashtag PLU patrimonial, à consulter sur vos réseaux sociaux, puisque voilà, c'est aussi notre gestionnaire de réseaux sociaux par rapport au PLU patrimonial. Alors, je sais pas, je laisse sûrement filer l'heure plus qu'il ne faut. Bon, ça va à peu près. Alors, je voudrais aussi, là je suis plus tout à fait l'ordre de mon texte, mais je voudrais aussi remercier dès maintenant, comme ça ce sera fait, tous les acteurs et tous les partenaires professionnels qui ont contribué pendant ces 3 années et demie de recherche aux rencontres que nous avons organisées avec eux. Là, bien sûr, je ne vais pas les citer, il y en a qui se reconnaîtront, qui sont dans la salle. Nous avons 2 fois par an, je parle sous le contrôle de Mathieu, mais entre 1 fois et 2 fois par an, ça dépendait des années, organisé donc des comités techniques. Donc nous avions, dans le cadre du fonctionnement de l'équipe, donc nos comités de pilotage, donc entre membres de l'équipe de recherche. Mais 1 fois ou 2 fois par an, nous avions donc des comités techniques, donc avec des acteurs comme vous. Qui sont venus participer donc aux échanges sur les résultats qu'on commençait à avoir, sur les questionnements qu'on pouvait se poser. Certains ont aussi contribué à des balades urbaines donc dans un certain nombre de villes dotées de PLU qu'on peut considérer comme patrimoniaux. Donc voilà, donc au nom de l'équipe, on vous remercie sincèrement pour ce lien que ça nous a permis de maintenir entre la recherche scientifique et puis les réalités de terrain qu'on voyait évidemment parfois avancer plus vite que ce que nous observions justement dans l'échantillonnage de référence que nous avions. Donc voilà, c'était en tout cas une aide importante pour alimenter notre réflexion. Alors j'en profite aussi pour remercier donc Jean-Philippe Corbellini qui va filmer les différentes interventions et qui a été, donc je pense que Mathieu tu vas peut-être pouvoir venir présenter la chaîne Canalu, oui ? voilà. Et donc Jean-Philippe Corbellini donc a été donc la cheville ouvrière d'un certain nombre de livrables vidéo qui sont déjà en ligne et que Mathieu va vous présenter rapidement. Et dont le film, bien sûr, qui va être projeté d'ici un quart d'heure, 20 minutes maximum, mais aussi donc des capsules. Donc, je pense que tu vas présenter ça. Voilà.
Oui, merci Arnaud. Donc, je vais rapidement vous présenter la chaîne Canal U, qui est l'équivalent du YouTube pour l'université, pour le faire vite, qu'on a mis en place et qui va réunir l'ensemble des livrables du programme de recherche, en tout cas l'ensemble des livrables vidéo. Alors, comment ça marche ? Donc déjà pour nous trouver, il faut aller dans l'accueil de Canal U, taper PLU Patrimonial, donc on a une chaîne dédiée, avec 8 collections. Alors ce qu'on appelle des collections, ça permet de ranger en fait les différentes vidéos. Donc on a je ne vais pas vous les lister, mais globalement on a un documentaire, on a des capsules vidéo qu'on a appelées Focus sur le PLU Patrimonial et qui reprennent en fait les textes que vous avez dans vos pochettes. On a aussi des balades urbaines, on a les comités techniques, on a des entretiens qui sont des matériaux bruts de recherche et qui sont donc rangés dans ces collections en haut à gauche. Donc le documentaire que vous allez voir, donc fait 30 minutes, vous le verrez. Je vois rien en fait sur le côté. Donc 23 capsules vidéo, pour l'instant il n'y en a que 18 en ligne, mais les autres vont venir bientôt. Et sous chaque capsule vidéo, merci Patrice, sous chaque capsule vidéo, il y a possibilité de télécharger dans l'onglet documents, alors il faut fouiller, vous verrez, dans l'onglet documents, il y a des documents en téléchargement, dont par exemple le PDF du document que vous avez dans vos pochettes. Il y a parfois des PowerPoint qui sont diffusés, par exemple sur le séminaire de recherche international, il y a l'ensemble des présentations PowerPoint qui sont attachées à chaque vidéo, ou des liens vers des sites internet externes. Il y a aussi donc des entretiens qui sont des matériaux bruts de recherche. Alors j'insiste un peu là-dessus parce que c'est des entretiens qu'on a filmés, qu'on va mettre tels quels sur la chaîne, qui seront chapitrés en fonction de thématiques. Donc c'est pour vous éviter de regarder l'ensemble des 45 minutes d'entretien si seulement une seule thématique vous intéresse, avec un certain nombre de métadonnées donc qui seront dans le carré rouge en bas à droite. Et qui vont vous permettre de mieux naviguer, de mieux aller à l'essentiel pour ce que vous cherchez. Donc ça, j'en ai parlé tout à l'heure, je ne vais pas revenir dessus. Et enfin, donc des balades urbaines. Pour l'instant, il y en a 3. Il y en aura peut-être une quatrième à terme. Avec là aussi des documents téléchargeables, des liens vers les sites internet des collectivités qui ont pu nous accueillir ou sur lesquels il y a de la donnée. Et donc finalement, au bout du bout, et je crois que c'est le bout, la chaîne Canal U sera l'occasion de capitaliser l'ensemble des données vidéo avec d'autres types de matériaux. J'insiste un peu là-dessus, il faut vraiment fouiller sur les documents, les liens, tout est sous chaque vidéo et les chapitres à droite. Et vous aurez quelque chose d'à peu près complet sur le programme de recherche qui restera en ligne, y compris après la fin du programme. Je te repasse la parole.
Voilà. Alors, pour terminer donc cette rapide introduction au colloque, hein, pour recontextualiser le programme. Voilà. Bien sûr, Mathieu vient de vous présenter la valorisation sous forme d'images d'un certain nombre donc, d'éléments, de résultats. Voilà, je ne reviens pas, entre autres, par exemple, sur le film qui va vous être présenté ou les capsules. Et donc, entre autres, les textes qui ont été écrits pour ces capsules vidéo ont été rassemblés dans un petit livret qui est dans votre pochette. Voilà, donc c'est pas, comme j'ai dit tout à l'heure, la bonne recette du PLU patrimonial, le guide méthodologique, mais ce sont quand même des éléments sur lesquels nous avons trouvé intéressant de rassembler un peu nos idées à la fin de ces trois ans et demi de programme de recherche. Donc ce livret, vous l'avez déjà dans votre pochette, donc c'est le livret que nous avons intitulé « L'éclairage pour l'action », sans prétention, parce que vous êtes dans l'action, c'est en regardant ce que vous faites que... pour une part, on a alimenté notre réflexion, mais en ayant aussi justement notre propre regard sur ce que vous faites et en essayant aussi de croiser des éléments Hein, voilà, donc vous en avez un échantillon, mais si vous en voulez davantage, vous avez vu qu'à l'entrée de la salle, vous avez une table. On en a fait imprimer généreusement 1000 exemplaires. L'idée, c'est que ça parte dans les territoires. Hein, donc, si vous êtes en CAUE, si vous êtes en agence d'Urba, si vous êtes dans des collectivités où vous avez éventuellement des collègues qui peuvent être intéressés, voilà, si vous avez des élus, des associations qui sont intéressées, n'hésitez pas à en prendre. C'est gratuit. Et si vous avez un peu de place dans votre sac, le but, c'est que ça arrive justement dans vos territoires. Donc ça, c'est un des livrables écrits, on va dire. Un autre livrable, vous l'avez aussi, c'est le 4 pages. Hein, alors là, je pense par exemple aux élus, hein, qui, vous le savez bien sûr, mieux que moi, ont rarement le temps de lire plus de 4 pages. Donc c'est le format dans lequel on s'est dit que peut-être on avait une chance d'accrocher des élus. Je ne sais pas s'il y a des élus dans la salle, hein, je ne veux pas les offusquer. Mais voilà, donc vous avez aussi la possibilité d'en prendre davantage. Pareil, si vous avez un comptoir dans un CAUE ou dans une agence d'Urba où vous pouvez laisser ces documents à disposition d'acteurs, n'hésitez pas. Voilà, puis nous envisageons, ça sortira donc la publication aussi d'un ouvrage, plus classiquement, aux éditions L'Harmattan, donc dans la collection Droit du patrimoine culturel et naturel, qui est dirigée entre autres par Jérôme Fromageau, qui est présent dans la salle. Donc là, par contre, il reste encore un travail d'écriture, qui sera d'ailleurs probablement alimenté par les échanges que nous allons avoir pendant cette journée et demie. Donc ça, on vous tiendra au courant, si ça vous intéresse, bien sûr, par la liste de diffusion de la sortie de l'ouvrage, vraisemblablement plutôt en 2020, hein, le temps de finir les écrits et bien sûr de faire mettre tout ça en page. Voilà. Alors, un dernier petit mot, il y en a qui connaissent, un dernier petit mot sur un livrable qui n'était pas prévu au tout début. Il y a des acteurs qui sont dans la salle et qui ont déjà eu la gentillesse d'échanger avec Julie Marchand dans le cadre d'une étude de marché sur ce Serious Game. Je ne sais pas s'il faut l'appeler comme ça forcément, mais enfin voilà. Donc on a aussi conçu un jeu de plateau pouvant servir de support de médiation en matière de droit de l'urbanisme et du patrimoine. L'idée du parcours, c'est de confronter un pétitionnaire à une demande de travaux dans un espace protégé, alors par un PLU patrimonial ou par un outil dédié, hein, un périmètre monument historique, voilà, donc en essayant d'introduire des nuances entre les deux régimes juridiques, par exemple. Voilà, alors le jeu, vous envoyez là la version prototype. Il est amené à évoluer parce que, pour être franc, pour le moment, il n'est pas encore très ludique. Voilà. Il est informatif. C'est un bon outil, je pense, d'éducation citoyenne, par exemple. Voilà. Et pourquoi pas même de formation, par exemple, pour le CNFPT qui a déclaré son intérêt, par exemple, pour un outil de ce type. Mais voilà, on va continuer à le faire évoluer. Et avec Mathieu, d'ailleurs, on va début juillet à Marseille pour un atelier de la compagnie des rêves urbains, c'est ça, sur les jeux. Donc voilà un autre livrable du programme. Alors, j'arrive enfin, il est temps, à la fin de cette introduction. Donc cette introduction ne se termine pas par le contenu, puisque effectivement le contenu va tout de suite vous être présenté, enfin après l'intervention de Patrice, sous la forme du film. Vous allez voir que les deux grandes questions, elles apparaissent par exemple dans le 4 pages qui nous ont rapidement rassemblés dans l'analyse des PLU patrimoniaux. C'était la question effectivement de la désignation des patrimoines, de leur identification, de leur typologie, etc. etc. Et puis bien sûr derrière, la deuxième question fondamentale, c'est la question du niveau de protection que peut permettre un plan local d'urbanisme ou un plan local d'urbanisme intercommunal en matière donc de protection des patrimoines. Donc je ne vais pas développer ces deux grands axes et toutes les sous-questions que ces axes impliquent. Ça va être le cas pendant cette journée et demie. Vous allez en avoir un résumé par le biais du film. Et puis après, par le biais de chaque session, nous allons revenir sur ces grandes thématiques en terminant donc par une table ronde demain après-midi qui permettra aussi de mettre cette question de la relation entre PLU, PLUI et patrimoine en perspective avec les nouveaux enjeux des territoires. Voilà, donc je redéveloppe pas ça. Je voulais simplement remercier ceux sans lesquels l'organisation de ce colloque n'existerait pas. Donc, entre autres, mon collègue Pierre Secoué, qui est à l'accueil et qui a géré beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses pour un colloque comme celui-ci, parce que, vous avez vu, il ne se passe pas à la fac. Donc, rien que l'intendance que je provoque auprès de mes collègues du Centre Jean Bodin en disant « Nous allons déménager le colloque pour être dans un lieu d'exception », c'est beaucoup de travail. Je remercie aussi les 5 étudiants et étudiantes qui nous donnent un coup de main. Puis j'ai remercié Jean-Philippe tout à l'heure de la MSH de Tours, mais j'ai pas encore remercié Thomas Donadieu, qui est aussi donc un homologue pour le Centre Jean Bodin. Bon, j'espère n'avoir oublié personne. Je vous souhaite au nom de l'équipe un bon colloque. Nous nous sommes réservés normalement des temps d'échange importants. Voilà, ce ne seront pas des monologues. Nous avons réservé dans le programme des sessions qui nous permettront d'échanger. Et c'est vraiment l'objectif de continuer à alimenter notre réflexion avec ces échanges. Voilà, à tout à l'heure.
Merci Arnaud. Donc juste pour continuer cette phase d'introduction, excusez-moi, il faudrait revenir, ouais. Non avant, merci, j'arrive pas à le faire bouger, c'est possible d'avoir la diapo avant ? Ah je l'ai, voilà on bouge plus. J'aimerais donc juste pour conclure cette phase d'introduction, insister sur un autre aspect de notre programme de recherche qui était, alors nous travaillons sur la France, nous travaillons sur un contexte particulier, nous travaillons sur des contextes locaux, mais on avait aussi la volonté d'élargir le regard à certains contextes internationaux. Alors ça s'est fait par des compétences d'un certain nombre de membres de l'équipe sur des terrains internationaux, ça s'est fait aussi, et ça a pris la forme d'une réflexion avec certains collègues que nous avons initiée, donc avec des collègues belges, canadiens, espagnols, italiens, portugais, mexicains et brésiliens, et sur les questions qui étaient celles de notre programme de recherche, et par l'organisation donc à Tours au mois de septembre d'un séminaire international dans lequel on a posé donc à nos collègues internationaux des questions assez similaires que celles qui étaient celles du programme de recherche, et en intitulant donc ce séminaire « Quel rôle des documents d'urbanisme pour la protection du patrimoine urbain ?» Donc c'est un séminaire de 2 jours à Tours, les interventions ont été filmées, elles se trouvent aussi donc sur la chaîne Canalu dont nous avons parlé. Juste ici, donc je tiens à remercier donc les participants qui sont... En fait, cette chose-là ne marche pas, ou alors je ne sais pas appuyer. Excusez-moi, je tiens à remercier les participants. Non, il faudrait revenir avant. Et en particulier Jérôme Fromageau qui avait accepté la dure tâche de faire une synthèse donc à la fin du colloque. Donc vous trouvez cet exercice brillamment réussi par Jérôme Fromageau à la fin de ce séminaire. Donc est-ce qu'il serait possible de revenir sur la dernière diapo ? Merci. Un certain nombre de collègues internationaux qui ont accepté de participer, que je reliste pas ici, mais qui sont des collègues qui ont travaillé sur des questions similaires. Alors l'objectif de l'ouverture internationale, en fait, pour nous, elle était de nous permettre de relativiser certains types de nos conclusions, de nous aider à décontextualiser, c'est-à-dire dans notre réflexion sur la question patrimoniale, il était important de contextualiser très fortement nos analyses, mais il se trouve que dans une série d'explications que nous avons sur le contexte français, on a souvent recours à des explications par le contexte, c'est-à-dire des explications par le contexte institutionnel, le contexte politique, le contexte urbain. Et il était intéressant de s'apercevoir que dans d'autres contextes, dans des contextes radicalement différents en termes d'organisation politico-administrative, y compris en termes d'historicité du patrimoine, des questions similaires pouvaient se poser et de voir qu'est-ce que ça pouvait nous dire pour la réflexion sur la France. Donc le problème, ce n'était pas tellement de faire une comparaison internationale, c'est-à-dire de voir ce qui était similaire et différent dans l'ensemble des contextes, mais peut-être de faire ce que nos collègues canadiens appellent une contrastation, c'est-à-dire d'essayer de voir en quoi des éléments que l'on trouve dans des contextes internationaux nous permettent de réinterroger les contextes français et peut-être de sortir d'un certain nombre d'évidences, des explications par, encore une fois, le contexte national. Alors, j'ai pas le temps ici de reprendre une synthèse des débats, simplement dire que on peut tirer néanmoins un certain nombre de fils comparatifs et vous irez voir si ça vous intéresse donc sur notre chaîne ces éléments-là, mais on peut tirer des fils comparatifs sur la genèse des protections patrimoniales, sur leur place dans l'essor de la planification urbaine, sur les relations entre acteurs de la protection et ceux de la planification urbaine, c'est aussi quelque chose qui sera fortement présent dans ces deux journées, sur les formes d'institutionnalisation même des espaces patrimonialisés, sur les effets de la patrimonialisation en lien avec les dynamiques urbaines. Et ces dynamiques urbaines peuvent être différentes, enfin assez similaires dans certains cas et dans d'autres cas radicalement différentes. Alors quelques éléments peut-être juste en fin de cette introduction. Sur les relations entre les documents d'urbanisme, réglementation et acteurs spécialisés, dans les débats, une des éléments qui était souligné dans la synthèse par Jérôme Fromageau, c'est qu'il n'y avait pas dans les contextes que nous avons, sur lesquels nous avons travaillé ici d'équivalent de l'inventaire au sens du mot service de l'inventaire. Il y avait dans de nombreux contextes, et il y a de nombreux contextes, des dispositifs du type abord, mais avec des périmètres et des effets différents. Et la transformation des périmètres du type abord en quelque chose qui est une sorte de vigilance généralisée sur une grande partie des espaces historiques est quelque chose qui est assez spécifique, du cas français. Des documents dédiés existent dans d'autres contextes. Le fait d'avoir à la fois des documents dédiés et des documents de planification urbaine peuvent exister dans d'autres contextes, mais on n'a pas trouvé d'équivalent en termes de volonté de faire depuis l'action patrimoniale une planification totale d'un espace, d'équivalent de ce que l'on peut connaître sous le nom de PSMV. Alors, il existe des cas où la planification peut être laissée totalement aux documents d'urbanisme, qui intègre des servitudes patrimoniales avec, dans certains cas, une plus grande ou moins grande intégration donc de ces deux domaines. Alors, souligner aussi quelques éléments sur les relations entre les niveaux de pouvoir au sein de la gestion patrimoniale. Alors d'abord, montrer, dès qu'on est en réflexion internationale, on s'aperçoit que la question patrimoniale ou une des idées que nous avons sur la question patrimoniale en France, qui est le fait qu'elle pourrait être en partie le domaine de l'intervention de l'État, elle peut être relativisée, non pas tellement donc par cette intervention sectorielle, mais par la façon dont elle s'ancre dans des contextes différents d'organisation de l'État. Donc on a des États fédérés dans lesquels la question patrimoniale n'est pas d'emblée, elle ne relève pas d'emblée de la fédération, et donc il est intéressant de relativiser peut-être un certain nombre d'éléments. On a des contextes dans lesquels la notion de subsidiarité, qui nous est assez étrangère, en termes, en tout cas qui existe dans le contexte, mais qui est assez étrangère en termes de façon de résoudre des problèmes entre les niveaux de pouvoir, a une efficacité beaucoup plus grande. On s'aperçoit aussi que les liens entre construction de communautés locales, d'identité territoriale à l'échelle des États fédérés, des provinces ou des villes, peut être plus clairement assumés et trouver une sortie réglementaire dans des éléments du type patrimoine local ou patrimoine régional. Et puis cette idée aussi que dans tous les contextes internationaux, il n'y a pas forcément de défiance des autorités locales pour la protection du patrimoine et qu'on a trouvé dans certains cas des planifications locales débouchant sur des protections exemplaires sans intervention d'une tutelle nationale comme par exemple dans certains contextes italiens ou dans certains contextes espagnols. La notion même d'ailleurs d'état local qui est utilisée dans certains contextes relativise aussi la façon dont on a à penser la relation entre état et collectivité locale. Alors je terminerai, mais on reviendra je pense aussi sur ces questions dans le débat, par la question de la participation et l'intérêt de la comparaison ou en tout cas de la prise en compte du contexte québécois qui dans ce domaine-là nous montre à quel point, pas uniquement sur la question patrimoniale, mais l'ensemble de l'action publique d'urbanisme peut être peu marqué par la participation, en tout cas marqué par en tout cas, sous le nom participation, on met des choses assez différentes, puisque ce que nous disait Martin Drouin, donc notre collègue canadien, c'est qu'il nous montrait comment les municipalités adoptaient des politiques patrimoniales qui étaient censées faire justement une synthèse entre les différentes formes de l'action patrimoniale suite à d'amples consultations publiques qui reposaient au niveau local et en particulier, bien sûr, avec plus de poids dans les grandes villes, à Montréal en particulier, la question de la définition même de l'intervention patrimoniale, de la définition des valeurs patrimoniales et des relations entre les différents types d'acteurs dans le cadre d'éléments qui sont appelés politiques patrimoniales et qui sont censés régler la question au niveau local. La possibilité aussi, dans le contexte québécois, de lier des exercices de planification de quartier ou de secteur à l'intégration de projets, donc une réflexion sur la question de la participation, mais aussi sur le rapport entre réglementation et projet, dans une ouverture assez grande en termes de discussion avec l'ensemble des acteurs et cherchant à intégrer patrimonialement des éléments nouveaux et poursuivre les évolutions d'un espace au sein d'une réflexion faite dans un domaine d'assez grande ouverture du débat. Des dispositifs d'évaluation de l'intérêt patrimonial d'un lieu, par exemple, comme élément pour prendre en compte une forme de gestion du changement, assumée comme politique, devant se faire dans une phase de participation avec les représentants des différents quartiers. Et au total, ce que nous présentait le cas québécois, et j'arrêterai là-dessus, c'est une très grande croyance dans le rôle de la participation pour renforcer l'acceptabilité de la règle d'urbanisme, l'acceptabilité même de l'action patrimoniale. Et cette croyance, elle va jusqu'à être partagée par les porteurs de projets qui considèrent que la participation, certes, peut ralentir le projet, mais peut renforcer l'adaptation du projet au contexte local. Alors j'arrêterai ici pour pas être trop long sur cette question spécifiquement internationale, mais il me semble que il est intéressant aussi de penser l'intervention patrimoniale en France, pas uniquement à partir de ses spécificités.